Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, avec aujourd'hui Christophe Papon et Michel Bertin à la technique, et assisté de Jean-Baptiste Audibert, c'est toujours Xavier Pestuggia qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur durable, puisque c'est la semaine du même nom, la gouvernance et le développement durable. Eh bien non, ce n'est pas le nouveau cours de langue de bois de l'ENA, mais au départ, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire surtout, veuillez laisser la terre aussi propre que vous l'avez trouvée en entrant. Arrêtez de la pomper, de la carboniser en pensant à vos petits-enfants, et puis aussi à partager, parce qu'il n'y a pas que le mode de vie occidental sur terre. Je sais, c'est extrêmement contrariant, mais c'est comme ça. Progrès et développement durable, c'est aussi acheter de jolis écrans plats pour regarder le foot, environ l'ancienne télé qui fonctionne encore bien, ou bien acheter le nouveau téléphone portable très fun qui fait le café et qui remplacera avantageusement celui qui faisait grille-pain acheté le mois dernier. On comprend bien que le développement durable et 4x4, c'est pas exactement ça dont les ventes explosent en ce moment. Développement durable et ours des Pyrénées, on y croit moyen. Développement durable et la loi sur l'eau qui applique à peine le principe pollueur-payeur, ce sera un petit peu difficile. Donc on le sait, le développement durable c'est aussi devenu le graal de la communication d'entreprise. Le discours est en place, la mise en œuvre va encore se faire attendre car on doit changer de cap, produire, consommer sûrement moins et s'organiser autrement, ce qui n'est pas actuellement une vraie question politique en France, contrairement peut-être à d'autres pays. Mais aussi, voyons quand même ce qui marche. Vous avez des écovilles qui commencent à naître, vous avez des collectivités en France qui bougent, qui s'organisent. L'Alsace par exemple repense son chauffage collectif, les parcs éoliens fleurissent, on s'intéresse enfin sur l'étalement urbain. On impose la récupération de l'eau de pluie dans les nouveaux lotissements. On favorise davantage le vélo. On recycle les huiles de friture au Japon ou en Savoie pour en faire du fioul. Une enseigne comme Monoprix tente d'utiliser le ferroutage pour approvisionner ses magasins. La Suède veut abandonner le pétrole d'ici 15 ans. Donc il y a quand même des choses qui sont plus que de la prise de conscience. Dans les médias aujourd'hui, Sarko et Segault avancent leur pion, le transfert des animateurs de télé et l'indécent chiffré qui va avec occupe la place, bientôt la Coupe du Monde de foot avec des champions élevés sous la mer, un gazon naturel et des crampons de chaussures biologiques qui vont submerger nos cerveaux. Et pendant ce temps-là, que font les Verts? Eh bien les Verts comptent et recomptent leur bulletin de vote. Eh bien ça nous stimule, ça nous donne le moral, on y croit. Allez, bon courage. Non, je vous rassure, comme les médias remplissent le rôle, il y a eu cette semaine une forme de très bons suppléments de Libération, du Figaro, Le Monde également. Pour les adolescents, Okapi, un très très bon numéro pour les ados, Quelle Terre Demain, sans oublier les clés d'actualité junior, beaucoup de choses qui dépassent un peu la prise de conscience. On va s'intéresser, ah bah oui, puisqu'il est là, il n'y a pas de raison, avec Jean-Marie Pelt. Bonjour Jean-Marie, est-ce que vous êtes prêt?
On est prêt, on dit bonjour à tout le monde, oui, et bonjour Denis.
Bonjour à tous. Voilà, nous allons partir avec vous du côté de la lettre V comme vautour, mais vautour en Inde. Donc on va s'intéresser à ces oiseaux, que l'on connaît d'ailleurs aussi en France. On peut saluer tout le travail qui a été effectué de réintroduction dans les gorges de la Jonte en particulier, puis aussi dans le Midi. Ce sont donc des grands planeurs qui peuvent faire jusqu'à 2,80 m d'envergure, qui sont indispensables aussi, ils ont leur place dans l'écosystème. Que se passe-t-il alors en Inde ?
Ben, ils ont une place particulière dans l'écosystème en Inde, parce que comme chacun sait, l'hindouisme interdit d'abattre les bovins. Oui. Donc quand ceux-ci ne produisent plus de lait, ben, leurs propriétaires les lâchent, et puis les animaux ils divaguent. Et c'est les fameuses vaches de l'Inde que tout le monde connaît, qui font partie des scénarios et des mythes de l'Inde, puis ils meurent. Et alors leur carcasse est à ce moment-là rapidement dévorée par les vautours. Si ce n'était pas le cas, ces cadavres en putréfaction risqueraient de contaminer l'eau et de propager des maladies infectieuses. Donc les vautours font un travail de nettoyage extrêmement important.
Ce sont les éboueurs de la nature.
Ce sont les éboueurs de la nature. On compte en Inde 500 millions de bovins, voyez le chiffre que ça représente. Il y a beaucoup d'éboueurs à faire. Et il y en a sûrement plusieurs millions qui sont errants actuellement dans les campagnes. Alors ce qui se produit, à la stupeur générale, c'est que les vautours sont en voie de régression. On n'est pas tout à fait au clair sur les raisons de ce phénomène. Il y a plusieurs hypothèses. La régression est extrêmement rapide. On pense que l'utilisation d'un médicament anti-inflammatoire utilisé en médecine vétérinaire pour les bovins, qui s'appelle le diclofénate, resterait présent dans la chair des bovins après leur mort. Et quand les vautours se nourrissent de cette chair en putréfaction, ils avalent ce diclofénate.
Et c'est pas bon pour eux.
Et c'est très mauvais pour eux. Ça, c'est une hypothèse. Il y a 10 ans qu'on utilise ce produit et on constate que c'est à peu près l'époque où les vautours ont commencé à régresser. Alors, il y a une deuxième hypothèse, c'est qu'il y a peut-être une maladie virale. Mais vous savez, en écologie, souvent, il y a plusieurs phénomènes qui jouent de pair. Et on ne peut pas toujours dire c'est ça. Parfois, il y a une synergie de causes qui produisent un effet déterminé.
Donc les deux explications ne s'excluent pas.
Oui, ne s'excluent pas du tout. Alors les experts ont demandé au gouvernement indien l'interdiction de ce diclofénate. Je pense qu'ils vont l'obtenir parce que c'est en cours actuellement. On a essayé alors de sauver les vautours, naturellement. Et ce sont les Britanniques qui sont restés très proches de l'Inde, puisque l'Inde était britannique pendant très longtemps, qui ont créé plusieurs centres, dont l'un à Pinjore, pour réussir la multiplication des vautours. C'est très difficile, c'est une espèce protégée. Les jeunes vautours ne se reproduisent qu'à l'âge de 6 ans. Ils ne font qu'un œuf par an, c'est pas beaucoup. Donc ils ont un faible taux de reproduction. Et cette reproduction est donc très aléatoire, si bien qu'il faut essayer d'éviter que les vautours ne disparaissent complètement. Alors il y a un problème particulier, c'est que dans la région de Bombay, qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Mumbai, on a fait une espèce de contre-pétrerie curieuse pour le nom de cette grande ville, il y a les adeptes d'une religion très ancienne, de la Perse, qu'on appelle les Parsis, qui adorent Zoroastre. Et alors dans cette religion, les corps des morts ne doivent polluer ni la terre, donc on ne peut pas les enterrer, ni le feu, donc on ne peut pas les brûler.
Et oui, il ne reste plus grand-chose.
Alors, il ne reste plus qu'une solution, c'est d'installer ces corps dans les fameuses tours du silence qu'on voit dans les environs de Bombay et où les vautours viennent les dévorer. Mais s'il n'y a plus de vautours, les cadavres pourrissent dans les tours. Et alors, ça produit vraiment des odeurs pestilentielles. Et on a notamment installer des fours solaires pour que le soleil brûle les cadavres. Ce n'est pas la flamme qui va être contaminée ici, donc il n'y a pas de problème. Et ceci nous montre bien combien les charognards ont un rôle important dans la nature. Ce sont les décomposeurs. Ce sont ceux qui sont à la fin des cycles et qui recyclent la matière vivante continuellement. Il faut bien voir que l'écologie est fondamentalement cyclique. C'est le contraire de l'économie. L'économie, c'est le progrès, c'est la croissance, c'est le développement, c'est toujours linéaire. Ça marche en avant. Demain sera meilleur qu'hier. L'écologie, c'est pas du tout ça. L'écologie, ce sont des cycles où ce qui est aujourd'hui produit sera ensuite détruit et recyclé. Voilà. Et il faudra qu'on arrive un jour à une économie qui marche comme ça. Sinon, on se cassera la figure parce que nous n'aurons pas assez de ressources pour alimenter cette effroyable machine à casser.
Heureusement que les rapaces sont protégés, maintenant chez nous en France, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on les a tirés. Il y avait une espèce de délit de sale gueule par rapport donc à ces...
C'était les nuisibles.
Voilà, c'est ça. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que, et on le sait très bien dans les causes aujourd'hui, il y en a besoin lorsque vous avez des brebis, des ovins qui meurent, eh bien, ils sont nettoyés par aujourd'hui donc les vautours.
Voilà. Là, on comprend mieux comment fonctionnent les grands cycles écologiques.
Merci beaucoup Jean-Marie Pelt, excellent vol et puis à très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Choisi par Karl Vasseur, notre programmateur. C'était Gnarls Barclay qui interprétait Crazy. Là, c'est un duo, mais c'était donc le rappeur Silo, qui est un Américain d'Atlanta, que l'on a entendu. Chanson que vous connaissez bien maintenant sur France Inter. Allez, on va prendre l'air, on va aller en Méditerranée.
Cette réalité d'un parcours chaotique entre les différents usages qui ont été faits de cette île par l'homme, on retrouve des traces parfois cachées de cette réalité-là. Au fond, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que derrière ce paysage apaisé, eh bien, il y a dans le cours du temps une rencontre permanente entre ce qu'a décidé l'évolution naturelle, l'histoire naturelle, et puis de ce qu'a décidé l'évolution des sociétés. Et que finalement, le paysage tel qu'on le voit aujourd'hui, il résulte de cette rencontre, de ce télescopage entre ces deux histoires.
Des vagues, la Méditerranée, des grillons qui se régalent, nous sommes à Port-Cros. Alors en ces temps de printemps un peu caractériels, je me suis dit qu'une direction comme celle-là pour recharger les piles au soleil, ça ne nous ferait pas de mal. Le parc national de Port-Cros, qui est né à la fin de l'année 1963 et qui fait partie de ces îles, si vous voulez, qui sont disposées en arc de cercle face au massif des Maures. Donc ça nous rappelle que ces îles-là furent comme la Corse, comme la Sardaigne. Autrefois, elles étaient rattachées donc à ce massif. Et c'est un des plus petits parcs nationaux français, près de 700 hectares terrestres, un petit peu moins de 2000 hectares marins, avec des chênes, des pins d'Alepe, des bruyères, des arbousiers. Et évidemment, le lieu est superbe. Donc, comme il est superbe, ça vous aimante l'homo sapiens, consommateur d'espace et de plongée. Et il arrive parfois que l'on se conduise comme chez soi, c'est-à-dire globalement ignorant des règles et des lois. Donc, il faut gérer tout ça, d'autant qu'en pleine période, en pleine saison, c'est quand même 2500 personnes par jour. C'est pas simple quand il y a 6 gardes moniteurs, qu'il y en a 3 ou 4 qui sont au maximum sur le terrain. Et donc, on va voir le quotidien, ce qui se passe avec, dans cette île de Port-Cros, dans ce parc national, avec Nicolas Gérardin et Hervé Bergère qui nous emmènent sur le bateau. Alors là, Hervé Bergère, on arrive vraiment sur zone, c'est-à-dire sur le site de la Gabinière, qui est extrêmement fréquenté donc par les plongeurs. Vous faites la police de la nature, vous êtes assermenté, vous le disiez, parce que sinon, je veux dire, ce serait n'importe quoi.
Oui, ce serait n'importe quoi parce que la fréquentation de la plongée a explosé. Et là, par exemple, sur le parc, nous atteignons maintenant à peu près 45 000 plongées par an et à 70% sur la Gabinière, donc sur cet îlot. Ouais. Cet îlot qui n'est pas immense. Donc il est séparé en plusieurs sites. Et ce que l'on demande, c'est qu'il n'y ait pas plus de 40 plongeurs à la fois par site.
Ce qui est intéressant, c'est de noter que les bateaux sont aussi ancrés sur des systèmes fixes. Hein. Le mouillage est interdit sur les sites de plongée pour une raison évidente, c'est qu'il y a une contradiction majeure dans le fait de mouiller, c'est-à-dire de lancer une ancre et de la chaîne sur un site qu'on est susceptible d'aller contempler dans la minute qui suit.
C'est-à-dire qu'on risque d'arracher, c'est ce que l'on fait,
bien sûr,
évidemment.
On arrache, les chaînes frottent sur les tombants, arrasent la végétation ou les communautés fixées. Et donc...
Donc il y a des parkings, quoi, en quelque sorte.
Alors voilà, disons que c'est une sorte de concession faite au système qui permet de maintenir une activité de plongée en limitant son impact néfaste sur l'environnement.
Thank you.
parc national et je vais voir si vous aviez signé la charte pour venir plonger sur la Lébinière. Vous devez absolument passer au bureau du parc national avant de plonger et signer cette charte. Et c'est obligatoire depuis le 1er juillet 2004, donc nous sommes en deuxième année d'application. Si vous ne passez pas, vous êtes verbalisé.
Et alors Hervé, donc le principe de la charte, justement, qu'est-ce qu'il y a donc dedans ? À quoi s'engagent donc les plongeurs aujourd'hui ?
Cette charte, elle fixe des choses à respecter, notamment les choses les plus faciles, ne pas nourrir, notamment les mérous, parce que les gens venaient avec des œufs durs, donnaient des œufs aux mérous.
Et le mérou avait une dose de cholestérol assez intéressante.
Voilà, et ça, comme chez nous, hein, c'est pas bon, le cholestérol n'est pas bon. Ne pas toucher les substrats, donc la roche, le fond, ne pas toucher la faune et la flore fixée. Donc,
au fond, derrière la règle, il y a un état d'esprit, quoi. C'est dire que chacun est acteur de la protection, que les plongeurs sont souvent des gens passionnés, et c'est s'en remettre à leur bienveillance et à leur attention pour que ces sites puissent être protégés et qu'ils puissent continuer à en être les bénéficiaires. Au fond, ils défendent leur intérêt, leur fonds de commerce, si ce sont des professionnels, ou leur jardin, si ce sont des visiteurs d'un jour.
Alors parlez-moi maintenant quand même de cette bête qui est un peu emblématique, qui est le mérou, évidemment. Bon, le mérou et porc-croc, c'est une longue histoire. Histoire dans les années 70, où là, il n'y en a pas beaucoup, hein. il y en a une dizaine. Et c'est là qu'on se rend compte de tout le travail de protection et de conservation. Parce qu'il y en a, combien aujourd'hui des mérous, Nicolas ?
Dans les années 85, il y avait une trentaine de mérous sur le pourtour de la Gabinière. Aujourd'hui, je n'ai plus les chiffres exacts, mais à mon avis, on a plus de 400 sur l'ensemble du pourtour de Porquerolles.
C'est une des zones où il y en a le plus et c'est rassurant, c'est le côté positif d'une zone qui est mise en protection, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet réserve. Et ça prouve aussi qu'il y a une biodiversité très importante parce que le mérou est en haut de la chaîne alimentaire. Si le bas de la chaîne alimentaire, les proies se portent bien, lui, ben, il a de quoi se nourrir et il se porte bien. Et c'est ce qui se passe.
C'est quand même une bête qui peut mesurer jusqu'à le poids. Faites-nous un peu la fiche d'identité.
Alors le maximum, à Porcro, je ne sais pas à quel maximum on a pu trouver, mais ça peut aller jusqu'à
28 kg.
Et un petit mètre de longueur.
Racontez-moi un petit peu sa vie privée quand même à ce mérou. C'est, bon, il naît, puis jusqu'à 5 ans, il est comme ça. Et après, alors, qu'est-ce que c'est ? Il devient femelle ?
Voilà, il change de sexe. Donc, il a une vie qui lui permet de vivre ces deux expériences, ouais. Hein, d'être à un moment donné mâle et puis à un moment donné femelle. C'est un animal qui est relativement sédentaire. Il passe une partie de sa vie sur un même territoire. Dans un premier temps, on pensait qu'il y avait une sorte de renouvellement, que les jeunes populations chassaient les plus anciennes. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Hein. Ce qu'on en sait montre que la connaissance reste encore à parfaire.
Nicolas Gérardin, parlons quand même de ces posidonies parce que c'est extrêmement important, Méditerranée, leur rôle. On peut comparer ça à quoi ? Parce que ça va très vite, quoi. C'est une immense savane sous la mer.
On l'appelle soit la prairie sous-marine, soit la forêt sous la mer. Cette espèce, elle est qualifiée d'espèce clé de voûte. L'ensemble des équilibres du milieu marin littoral, c'est-à-dire dans la proche surface, donc au bord de mer, jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 30 à 40 mètres, dépend assez largement de la présence de cette espèce, qui est avant tout un énorme générateur d'oxygène, puisque 1 mètre carré de Posidonie donne 2 fois plus d'oxygène qu'1 mètre carré de forêt équatoriale en 24 heures. Donc c'est quand même des quantités extrêmement importantes d'oxygène,
c'est énorme,
et ça contribue donc à l'oxygénation et au maintien de la qualité des eaux. Ensuite, c'est un formidable producteur de biomasse, de matière vivante, qui elle-même est consommée au début de la chaîne par les organismes herbivores, les saupes, certains oursins, etc. La présence accrue d'oxygène permet le développement de tout un tas de petits organismes, comme les épiphytes par exemple, qui sont ces micro-crustacés qui se développent sur les feuilles de Posidonie et qui eux-mêmes sont aussi consommés par les oursins par exemple. Et puis au fond, bah, comme toute forêt ou comme tout milieu fermé, la Posidonie, c'est un lieu de reproduction, c'est nursery, parce que c'est vrai que les jeunes alevins de poissons ou de petits crustacés peuvent se mettre à l'abri des prédateurs et trouver les ressources qui leur sont eux-mêmes nécessaires pour grandir. Donc l'ensemble de ces fonctions-là donne déjà à la Posidonie une importance très grande.
Bonjour messieurs, dames. Je voulais voir si vous étiez au courant de l'obligation de signature d'une charte pour plonger.
Oui, mais on est parti trop tard ce matin, on voulait s'arrêter au port là pour remplir la charte. Moi j'ai déjà rempli, mais eux ils arrivent de Paris là.
Vous ne pouvez pas les faire plonger, puisque vous êtes au courant, vous ne pouvez pas les faire plonger sans qu'ils n'ont pas signé. Il faut prendre le temps, même s'il est en retard.
Je vous promets, on était à la bourse ce matin, on est parti, il était 10h.
Pour moi, c'est pas un bon argument, le fait d'être en retard en vacances. Donc je vais vous demander de remonter votre matériel et d'aller au port de Porquerolles pour 14h au plus tard. J'y serai et je vous y attends.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague.
Cette île de Porquerolles, comme la Corse, comme la Sardaigne, il y a 200 millions d'années, était en fait reliée directement au...
C'était le continent tyrrhénien, c'était un seul et même territoire qui n'a été définitivement île depuis la fin du Quaternaire. Le Quaternaire a été marqué par quatre successions de froides et chaudes, hein, avec donc de l'eau qui était soit l'état liquide, soit l'état solide de glace, et que à quatre reprises, les îles ont été isolées ou sont redevenues continents. Et donc, on trouve d'ailleurs des traces de cette histoire géologique, avec la présence sur Porquerolles d'un batracien qui s'appelle le Discoglosse sarde, qui est une sorte de mémoire de cette période-là. Et on ne retrouve pas cette espèce sur le continent parce que vraisemblablement, elle a été bloquée dans sa progression vers le nord par le dernier envahissement marin qui a fait que l'île est île.
Et comme c'est vraiment un endémique. Quoi,
oui. Alors endémique de Corso-Sarde, oui, c'est-à-dire qu'on le trouve en Sardaigne, mais on ne le trouve pas sur la Grande Terre, on ne le trouve pas sur le continent.
Je m'endors, mais je veux te...
Et l'autre bout du monde, vous l'avez compris aujourd'hui dans ces Hauts de mon amour sur France Inter, eh bien, c'est le parc national de Port-Cros où nous sommes en compagnie de Nicolas Gérardin et d'Hervé Bergère. Donc une île au milieu d'une immense prairie, donc c'est Posidonie, cet herbier qui occupe 50% des fonds de Port-Cros. Et puis, une île qui a toujours été un lieu d'inspiration pour les écrivains, les scientifiques. Un homme comme André Malraux, d'ailleurs, y a expérimenté un nouveau regard sur le paysage. Et on va poursuivre la balade.
Qu'est-ce qu'un gendarme? Qu'est-ce qu'un nudiste? Perico, qu'est-ce qu'un nudiste?
Chef, c'est quelqu'un de tout nu.
Merlot, qu'est-ce qu'un gendarme?
C'est quelqu'un de tout habillé, chef.
Chef. Oui. Avec un uniforme.
Ça, c'est, si je m'abuse, c'est une nouvelle infraction qui se multiplie à Port-Cros. C'est le naturisme. C'est effarant. Depuis 2 ans, c'est... Monsieur! Eh oh, monsieur! S'il vous plaît! Oh! Bonjour monsieur. Parc national. Nous ne sommes pas dans une zone de naturisme. Je vais vous demander de repartir à votre bateau, de vous habiller. Okay. Merci. Alors tant qu'ils sont nus dans leur bateau et qu'ils se lèvent pas, qu'ils restent discrets, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, dès que ça devient trop apparent pour le public, nous sommes un parc national avec plus de 300 000 visiteurs. On ne peut pas accepter le naturisme comme on accepte au Levant.
Et puis ça fait peur aux mérous, au plus.
Et puis c'est dangereux.
C'est dangereux.
Vous savez qu'il y a des carnassiers en l'air.
Hein.
Ici, maintenant, on trouve
nous sommes une zone où il y a énormément de barracudas. Se sont multipliés. Nous avons des bandes de 300-400 barracudas.
Bien sûr, et tous les trucs qui dépassent le barracuda, ils sont dessus. Ben, je comprends
très
bien.
Très vorace, barracuda.
Très, très vorace.
Alors, il y a un travail que vous effectuez donc, avec vos collègues gardes-moniteurs. C'est d'essayer d'éviter l'envahissement de la fameuse Caulerpe taxifolia qui est arrivée dans les années 90 grâce au merveilleux aquarium de Monaco. Puis alors après, on s'est retrouvé du côté d'Hyères, puis après du côté de Port-Cros. Et elle n'a pas de prédateurs, cette Caulerpe. Donc qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, avec vos petits poignets, vous plongez, puis vous essayez de les arracher.
Les agents du parc éradiquent la présence de la Caulerpe taxifolia, qui sont l'origine des boutures. Elle se reproduit par boutures. Il suffit, en quelque sorte, alors que c'est très complexe.
Si on laisse un tout petit, pas une radicelle, c'est fichu.
Voilà, c'est-à-dire qu'un moindre morceau végétal peut reprendre vie. Il était observé qu'un morceau de Caulerpa taxifolia dans un coffre de mouillage pouvait résister 3 semaines, même sans être immergé, simplement avec l'humidité du mouillage. Et nous, notre rôle, encore maintenant, c'est d'arracher les petites boutures ou des surfaces entières lorsque ça se développe très très vite. Et là, ce n'est pas une éradication manuelle, c'est avec des sortes de morceaux de moquette, de tapis imbibés de cuivre. Donc on pose ce tapis pendant 12 heures sur la Caulerpa. Et lorsqu'on retire le tapis, elle réenclenche sa photosynthèse, elle absorbe le cuivre et elle s'empoisonne par le cuivre.
Alors là, Nicolas Gérardin, on va quitter la mer, on va s'élever un petit peu. Je ne sais pas, le point culminant c'est de Port-Cros, c'est 250 mètres à peu près.
Oui, c'est le Mont Vinaigre, oui. C'est ça, c'est dans environ 200 mètres.
Ah, c'est
oui.
Le Mont Vinaigre là-dedans.
Alors vinaigre, ça n'a rien à voir avec le vinaigre d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça vient du grec akros, qui ensuite par déformation, vinaigro, c'était celui qui venait de la montagne.
D'accord.
Donc ça n'a rien à voir avec la gastronomie ou le vinaigre.
Et alors on voit quand même les traces d'activité humaine, à commencer quand même par un fort, parce qu'on va peut-être rappeler que ici à Port-Cros, au départ, ça a été un nid de brigands, un nid de corsaires, et puis après, les militaires se sont emparés des lieux.
Ça a été des lieux de relégation. Les îles servaient de lieux de mise en quarantaine pendant toute l'époque coloniale pour les militaires qui revenaient des anciennes colonies françaises, le Tonkin, etc. C'était des lieux d'industrie. Puisqu'on trouvait...
Ça, expliquez-nous.
Oui. Alors, on trouve sur Port-Cros un lieu dit qui s'appelle la Soude, Il y avait là, au début du siècle, une usine de soude, comme on en trouvait d'ailleurs sur l'île de Porquerolles, sur l'île du Levant, aux Ambiers. Et curieusement, on a retrouvé des textes qui disposaient que ces usines ne pouvaient être implantées que sur les îles parce qu'elles étaient jugées trop polluantes pour être installées sur le continent.
Ah, on repoussait la pollution, on l'écartait dans les...
On la mettait le plus loin possible. Il y a eu le bagne du Levant aussi.
Oui.
On mettait là, les îles étaient des lieux d'enfermement.
Et là, on relève les naturistes.
Exactement. Ça a été des lieux d'inspiration religieuse, puisque les moines de Lérins, au XIVe siècle, colonisent les îles d'Hier et s'y installent. On trouve un lieu dit et une ancienne ruine qui s'appelle le Ménage Notre-Dame. Un ménage, c'était une ferme fortifiée dans laquelle quelques moines avaient double mission de mettre en valeur le territoire et de prêcher la bonne parole.
Viens, viens mon amour. Car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre. Voici venu le temps d'aimer.
Face à nous, on a donc une gentille vague de béton, ça doit être le Lavandou.
C'est le Lavandou.
Et puis après, on a de merveilleuses petites tours charmantes, je ne sais pas, de 15-20 étages, ça doit être celle de Bormes-les-Mimosas.
Oui.
Là, et là, on se dit, mais on comprend très bien aussi qu'il y a des pays, il faut vivre, etc. Et tout. Mais, nom de Dieu, qu'est-ce que la protection, de temps en temps, ça fait du bien, même si ça hérisse le poil de certains de se dire « Ah, ben non, à force de tout protéger, on évite le progrès, on évite tout ça. » Non, je crois que c'est aussi des raisonnements qui sont à court terme. Il y a quand même des moyens de faire dont on va nous remercier plus tard, quoi.
Je dirais que ce qui est contestable, ce n'est pas d'avoir construit des stations balnéaires sur le littoral. Ce qui est contestable, c'est de les avoir construits sans se préoccuper de ce sur quoi on les construisait. Et déjà, là, on a mis des centaines et des centaines et des milliers d'hectares. On a mis en l'air tout un tas d'espèces très particulières. Je peux citer l'exemple que tout le monde connaît du laurier rose, hein, qui est une espèce caractéristique des rivages méditerranéens, qu'on trouve dans les ouèdes, ce qu'on appelle les ouèdes temporaires. C'est ces cours d'eau qui n'ont de l'eau que pendant une petite période de l'année, en automne et au printemps, que ça fait partie de l'identité locale et qu'on a fichu en l'air parce que dans toutes ces zones-là, on a construit des ports, des marinas et autre chose. Il y a quelque chose qui me rassure. C'est qu'au fond, ceux-là même qui revendiquaient ce droit à pouvoir camper devant la mer, à pouvoir avoir la vue sur la mer, ce seront aujourd'hui souvent les défenseurs. Parce qu'on dit qu'un écologiste, c'est un promoteur qui a déjà construit. Et qu'au fond, bah, quelque part, le système se défend de lui-même.
Évidemment, ce qui manque à la radio, c'est les odeurs, mais ça, vous aviez compris que dans l'air un peu surchauffé, l'herbe au chat, le ciste, l'immortel, le tout se mêlant au senteur de la mer, c'est un régal. Merci Nicolas Gérardin, merci Ave Bergère pour cette promenade donc dans Porquerolles. À côté, j'en ai pas parlé, parce que ça mérite un reportage en entier, l'île de Porquerolles qui abrite le conservatoire botanique, donc de la flore méditerranéenne. Mais on reviendra sur ces deux îles bientôt. Alors d'un parc national, donc celui de Porquerolles, on va passer à quelques milliers de kilomètres à une réserve naturelle, parce que là c'est une actualité qui est beaucoup plus douloureuse qui nous y amène. Nous allons partir donc en Guyane et on va rejoindre Olivier Tostin qui est un des membres de cette réserve naturelle. Bonjour Olivier.
Bonjour Denis.
Alors donc vous êtes, le décalage horaire c'est quoi? Il est 14h40 en ce moment, quelle heure est-il à peu près chez vous donc?
5h de moins en Guyane, il est 9h et des poussières en Guyane.
Alors on revient sur une actualité qui...
Sous un torrent de pluie d'ailleurs.
Ah bah d'accord.
On est en pleine saison des pluies, voilà, mais c'est normal.
Et donc le jeudi 18 mai dernier, je reviens sur cette actualité douloureuse, deux agents donc de la réserve de Guyane, c'est quand même la plus grande réserve de France, hein, 100 000 hectares de forêt tropicale primaire.
Oui, la réserve des Nouragues, là, qui se situe sur le bassin d'une des grandes rivières de la Guyane, la Pouague. Ouais. C'est effectivement la plus grande réserve de France, plus de 100 000 hectares, donc c'est quelque chose, hein, et ça préserve une biodiversité qui est tout à fait spectaculaire.
Donc deux agents qui sont piroguiers et charpentiers, c'est malheureusement l'actualité, ont été tués. Ils s'appelaient Capi et Domingo, et donc il y avait déjà eu des menaces, parce que nous sommes aussi, on le sait, dans cette réserve naturelle, il y a aussi tout le problème orifère et de l'orpaillage clandestin qui sévit.
Absolument, parce qu'on est en marge d'un secteur avec un fort potentiel orifère et on est vraiment en contact direct avec le développement de l'orpaillage clandestin qui a débordé concrètement sur cette réserve depuis 4-5 ans et les personnels, et notamment Capi et Domingo, avaient régulièrement l'occasion de rencontrer des gens plus ou moins menaçants, effectivement, et qui remontaient à l'intérieur de la réserve. Et aujourd'hui même encore, il y a encore des clandestins qui exploitent l'or au sein de la réserve. Et ce qui s'est passé le 18 mai, enfin en fait on a trouvé leur corps le 18 mai, mais ils ont sans doute été assassinés quelques jours auparavant. C'est manifestement un assassinat vraiment sciemment prémédité, qui a un peu tous les allures d'un contrat, comme on dit ici, à la mode brésilienne. Alors quelles sont les motivations réelles, c'est difficile à dire, mais enfin, du contexte général, on ressent ça un peu comme une espèce de volonté de faire de la place et de laisser à l'état de non-droit, je dirais, enfin le Far West de la, qui entoure ces milieux clandestins, de s'implanter là où ils veulent, en gros.
Alors on voilà. Se dit comment maintenant assurer votre mission donc dans cette réserve naturelle, hein. Bon, on sait que l'État fait ce qu'il peut, on sait qu'il y a des gendarmes sur place, bon, qui sont aussi en pirogue, qu'il y a des opérations Anaconda, mais c'est peut-être pas forcément complètement suffisant. Donc quel est l'avenir maintenant aujourd'hui pour une réserve comme celle-là, après ce qui s'est passé et le traumatisme, on imagine, qui découle de cela?
Bah, le traumatisme, il est grand en Guyane, hein, c'est certain, hein, parce que ça touche non seulement les espaces protégés, et potentiellement aussi l'avenir de la politique de l'État à travers le projet de grand parc national dans
bien
le
sûr,
sud et d'autres
oui.
espaces naturels, évidemment. Ça touche évidemment de plein fouet la filière de l'économie de l'écotourisme, qui est un petit peu embryonnaire en Guyane, mais qui est pleine de promesses. Et par conséquent, donc ça déborde largement le cas des espaces protégés. Et ce qu'on a rappelé au service du préfet hier, lors d'une réunion qui a réuni un certain nombre d'associations locales suite à une marche en mémoire de nos deux amis décédés, c'était que la vocation des réserves n'était pas de s'enfermer derrière des grillages et sous protection policière, parce que les réserves ont aussi une vocation d'accueil du public, etc. Et en fait, l'avenir n'est pas très simple, dans le sens où les services de l'État, enfin les forces armées ou gendarmerie, n'ont pas vocation à faire du gardiennage. D'un autre côté, enfin c'est ce qui nous a été annoncé. On nous propose de nous financer, enfin que les réserves se financent elles-mêmes pour faire du gardiennage privé. Et nous, on n'est pas d'accord parce qu'on estime que c'est pas la vocation des réserves de tomber dans ce type de travers-là. Et alors l'espoir, il vient peut-être sans doute quand même d'une réorganisation très récente. Alors est-ce que c'est tous ces événements qui concourent à ce que l'État ait
retravaillé
encore, à accélérer le mouvement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces deux décès aussi ont suivi la mort de Philippe Gros, qui est aussi une autre personne qui vivait sur la Prouague et qui, suite à certaines collaborations avec les forces de l'ordre pour essayer de traquer un peu les clandestins, en gros, bah, en fait, lui aussi a bénéficié d'un contrat. Il est mort en novembre dernier.
Donc, on attend effectivement une réorganisation et un peu plus peut-être de volonté. On vous souhaite.
Oui, ça vient effectivement. On a une action précise avec notamment les forces armées qui vont maintenant s'intégrer dans l'action et on est vraiment confiant dans une volonté. Ouais. Très forte d'éradiquer cette plaie qui gangrène toute la société guyanaise.
On vous souhaite plein de courage à vous et toutes les personnes qui sont dans ces réserves et à la population. Merci à vous, Olivier Tostin. À très bientôt.
Merci à vous tous.
Je vous en prie.
À bientôt.
Là où CO2, mon amour, passe, la pollution trépasse. Et allez. Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non?
Oui, on peut rêver, parce que non, mais sinon, ça vaut pas le coup. Eh bien, évidemment, évidemment. 01 42 20 40 40, vous connaissez ce numéro, c'est celui du répondeur de notre émission.
Bonjour. Eh bien oui, vous parliez des WC sacs. Eh bien, justement, hier, disons, à Pélissane, c'est à 6 km de Salon de Provence, eh bien, nous avons été dans une réunion champêtre, et la personne qui nous recevait avait installé un WC sac. C'est-à-dire que donc on faisait ses besoins comme il fallait, et ensuite il nous invitait à couvrir avec de la paille. Ça fonctionne en France, la preuve. Allez, salut.
Bonjour Denis, nous sommes des étudiants de l'ENSET, école d'ingénieurs à Toulouse, et nous organisons avec l'association Phébus Ariège la 6e édition du rallye solaire Phébus. Et donc en fait cette manifestation cherche à promouvoir les solutions alternatives au pétrole pour les déplacements de tous les jours. Ce rallye rassemble des véhicules de toutes sortes et de toutes nationalités fonctionnant à l'électricité. L'énergie est produite en fait par des centrales photovoltaïques qui sont réparties tout le long du parcours. Et en fait, nous sommes partis de Gérone jeudi matin et nous nous préparons là à traverser les Pyrénées et l'Ariège pour rejoindre Toulouse. Nous arriverons samedi soir à Tournefeuille dans le cadre du festival Camino et nous rejoindrons dimanche midi donc la place du Capitole pour la remise des prix. Donc voilà, venez nombreux vite du rallye et à la remise des prix à la place du Capitole pour découvrir ces véhicules de demain.
Voilà, et puis aussi donc les décideurs de demain qui seront vraiment formés à ça parce qu'ils ont donc une vingtaine d'années. Et c'est donc des graines, ça, c'est des graines d'espoir. On poursuit aussi dans un autre registre, toujours sur le répondeur.
Oui, bonjour Denis, bonjour toute l'équipe. Ben, je suis Chris, la potière de Mono, tout là-haut, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Et je voulais vous dire que je suis triste, très très triste même, parce que nous venons de perdre quelqu'un que nous aimions beaucoup. Il s'appelait Édouard Michelin. C'était pas vraiment un ami, c'était quelqu'un qui a croisé notre vie à plusieurs reprises, avec qui on a partagé de très 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 bons moments, de grande simplicité. C'était quelqu'un qui m'avait beaucoup touchée dans la façon qu'il avait d'éduquer ses enfants, dans le sens de la nature, dans le respect de la nature. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était un grand, grand, grand monsieur.
Bonjour, les portes ouvertes de la Maison des Insectes auront lieu ce dimanche 4 juin de 10h à 17h à Guyancourt dans les Yvelines, juste à côté de Versailles. Cette manifestation vous permettra de découvrir les activités de l'OPI, l'Office pour des insectes et leur environnement, ainsi que le monde extraordinaire des insectes. Les insectes migrateurs, nomades volontaires ou passagers clandestins de l'activité humaine, seront le thème central de cette journée. Rendez-vous donc le dimanche 4 juin à la Maison des Insectes à Guyancourt. À bientôt.
Ben voilà, vous voyez, ça bouge. Hein. Alors, je pense qu'elle ne parle pas comme ça quand elle lit pas son texte, mais sinon, c'était très très sympa. Ben oui, tout à fait. Et puis, alors, on va faire maintenant un petit tour. Ah bah tenez, si je vous dis le Volvès, si je vous dis le Cidobre, le Mont Perdu, la Flore d'Aubrac, le Pays Gersois, je pourrais continuer vraiment, je pourrais vous parler encore d'autres lieux, les Grands Causses. Le point commun, c'est la région Midi-Pyrénées. Vous avez 8 départements, vous avez 26% du territoire qui est quand même recouvert de forêts, c'est pas loin de 3 millions d'habitants, avec bien sûr Toulouse, que l'on connaît bien. Et vous avez là pendant 2 jours donc les journées nature de Midi-Pyrénées. Le but, c'est de découvrir donc des espaces naturels, des sites tout à fait remarquables et derrière cela, de développer des comportements, on va dire, éco-citoyens par rapport à ce patrimoine qui est quand même assez génial. Alors nous avons donc en ligne Carole Durand qui s'occupe du groupe des chiroptères de Midi-Pyrénées. Alors chez vous, là on va sortir ce soir, qu'est-ce que l'on peut voir, Carole ?
Des chauves-souris, ça fait partie de nos actions régulières, mais là, en fait, on met un petit peu plus en lumière, donc dans le cadre de ces journées nature, ces espèces, effectivement, par rapport à leur rôle d'insecticide naturel qu'elles remplissent tous les jours en notre faveur.
On va emmener des gens et des enfants. Alors, comment on fait ? Parce qu'il ne faut pas les déranger, ces chauves-souris, la nuit.
La nuit, là, il n'y a pas trop de soucis, dans le sens que nous serons équipés, en fait, de détecteurs à ultrasons. Parce qu'il faut savoir que les chauves-souris n'ont pas de vision nocturne, mais par contre, elles ont un système de sonar qui leur permet de se déplacer dans l'espace en émettant des ultrasons. Et c'est grâce à des petites boîtes qui transforment ces sons qui sont inaudibles pour l'homme, donc en sons audibles. Et c'est grâce à ces boîtes-là qu'on pourra les entendre.
Et dans votre région Midi-Pyrénées, il y a quand même beaucoup de lieux où elles peuvent nicher, bien sûr. Donc là, on va les voir à quel endroit ?
Alors là, on pourra les voir donc dans 2 endroits différents. Donc on organise deux animations pour elles. Donc une dans le Tarn-et-Garonne, sur la commune de Caylus, en collaboration avec la Maison du patrimoine Midi-Quercy. Et une autre dans le Tarn, sur la commune de Seys, donc très proche de la réserve ornithologique de Cambonnet-sur-le-Sor, et plus précisément sur la base de loisirs des étangs.
On n'est pas très très loin, on va dire, de Castres et de Puylaurent, hein, pour faire
voilà,
simple.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Pourquoi, Carole, on s'intéresse profondément aux chauves-souris ?
D'une part, parce qu'elles font partie donc de la biodiversité, donc c'est intéressant. On a comptabilisé exactement 26 espèces dans toute la région Midi-Pyrénées, sur les 33 qu'on peut trouver en France. Donc c'est quand même, la région Midi-Pyrénées a une forte responsabilité par rapport à leur préservation. Elles mangent énormément d'insectes, parce qu'il faut savoir qu'une chauve-souris est capable de manger entre 1000 et 2000 insectes en une minute de chasse. Donc par rapport à ce rôle-là, ça mérite vraiment qu'on y fasse attention.
C'est bien, ça bouge. Et en tout cas, toujours dans le cadre de ces journées nature de Midi-Pyrénées. Maintenant, c'est Philippe Pointreau qui est avec nous, qui est responsable de Solagro. Alors Solagro, c'est une association qui travaille sur deux domaines, les énergies renouvelables et l'agroécologie. Donc avec vous, ça va être visite guidée d'une exploitation agricole et donc de son patrimoine arboré. Ça se passe où, Philippe Pointreau ?
Alors donc ça va se passer donc dimanche à la ferme du Marigot, qui est à une commune de La Fouillade à côté de Najac, là, chez un agriculteur qui est en agriculture biologique, qui s'appelle Francis Angelbert.
Nous sommes dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron, voilà. Tout à fait, et donc qui est président d'une association qui a été créée à cet effet, pour sauvegarder les vergers traditionnels de pommiers et de châtaigniers, qui s'appelle Terre Paysanne. Et donc ce qu'on va voir en fait, c'est comment ces agriculteurs se sont mobilisés pour sauvegarder et valoriser ces vergers traditionnels. Donc comment on les taille, comment on transforme les châtaignes et les pommes pour faire des produits de qualité, quoi.
C'est-à-dire qu'ils avaient d'autres tentations éventuellement, c'était plus intéressant pour eux de ne pas garder ces vergers, que l'on comprenne bien.
Bah, ces agriculteurs-là, non, parce qu'eux, ils ont des petites exploitations et ils cherchent des revenus complémentaires.
D'accord.
Mais c'est vrai que globalement en France, il y a eu une très forte réduction de ces vergers au profit de vergers intensifs, quoi. Mais eux, non, au contraire, ils se sont réappropriés ce patrimoine. Ils l'ont remis en valeur et actuellement, donc, ils ont à la fois des produits comme du jus de pomme et puis ou des confitures de châtaigne ou de la farine de châtaigne qu'ils commercialisent en vente directe, quoi.
En agroécologie, ce qui vous intéresse, c'est de mettre vraiment en avant tout ce qui forme ce qu'on appelle une mosaïque paysagère, c'est-à-dire aussi bien des vergers, des bosquets, des haies.
Ben disons, ce qui est intéressant, c'est à la fois bon, l'intérêt qu'ont les agriculteurs, mais pour nous aussi en termes d'environnement, d'ailleurs, et aussi pour les agriculteurs, c'est que en fait, ces arbres qui sont très extensifs, de hautes tiges, en fait, permettent la conservation de la biodiversité, en particulier des chauves-souris, des oiseaux là, comme le torcol ou le rouge-queue à front blanc. Et donc, maintiennent la biodiversité au sein de l'agriculture, quoi. Et c'est vrai que la biodiversité en agriculture a beaucoup reculé parce que tous ces arbres qui faisaient partie des systèmes agricoles ont reculé là, ces 20 dernières années, quoi.
Et ce qui est intéressant, Philippe Pointreau, c'est de rappeler que nous sommes aussi des consommateurs et qu'on a un rôle à jouer.
Voilà, donc là, on va aller voir les vergers. Et en fait, l'idée maîtresse que nous, on veut faire passer, c'est que, en fait, si les consommateurs consomment ces produits comme les jus de pommes issus de ces vergers-là, eh ben, ils contribuent en fait à maintenir ces paysages et cette biodiversité, quoi, que l'agriculteur entretient. Donc tout le monde peut s'y retrouver, d'autant que ces produits-là, quand c'est vendu en vente directe, c'est des prix tout à fait compétitifs. Donc en fait, en consommant, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'en consommant du jus de pomme ou en mangeant des châtaignes, eh ben, on préserve la biodiversité et on préserve ses paysages.
Merci à vous Philippe Pointreau. On va quitter la région Midi-Pyrénées pour aller en Bretagne. Et même si l'information n'est pas forcément joyeuse sur le répondeur, il y a quand même du sourire.
Dieu, il y a trop de rivières en Bretagne. Alors pour fêter dignement la mort du Traubigot, c'est une petite rivière qui débouche sur la grève de Saint-Michel dans la baie de Layon. Pour fêter dignement la mort du Traubigot, donc, on organise une grande fête samedi à 17h à Toulard-Vélines, avec procession expiatoire, exorcisme, bûcher de Mont-Satan, concours de pêche funèbre, distribution d'eau miraculeuse du Traubigot naturellement désherbante. Et de quoi il est mort, le Traubigot ? De pesticides. Le Duron, vous connaissez le Duron ? C'est un désherbant de jardinier, 17 fois la norme. Et le glyphosate, c'est le Roundup, mais enfin, on n'a pas le droit de le dire. Eh bien, 46 fois la norme. Eh bien, comme disait Boris Vian, on est mort, il est temps qu'on rigole. Bon, alors, maniez-vous et bougeons-nous tous tant qu'on est encore en vie. Ciao !
Bonjour Denis, c'est Brigitte de l'association AME. Pour vous demander d'annoncer la tenue ce week-end du Salon des éco-énergies de Mérindol, qui permet au public de s'informer et de rencontrer des professionnels des énergies renouvelables et des économies d'énergie. En bref, de trouver des solutions pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre dans les domaines notamment de l'habitat, des déplacements et de la consommation. Des conférences sont organisées pendant les deux jours. Nous aurons notamment Corinne Lepage, Michel Rivasi et d'autres experts de la protection de l'environnement. Mérindol se trouve dans le Vaucluse, entre Cavaillon et Pertuis. Merci Denis et au revoir, à bientôt.
Et alors, encore très différemment, en région parisienne, une déchetterie ce week-end, celle d'Aulnay-sous-Bois, transformée en lieu musical, avec deux musiciens qui appartiennent à un groupe qui s'appelle Urban Drum and Bass, Stéphane Fisch et Bernard Blessin. Bernard Blessin, alors vous êtes des recycleurs musicaux et vous tapez, on va dire, avec talent sur tout ce qui traîne, c'est un petit peu ça ?
Moi, je suis quelqu'un qui a d'abord suivi un cursus d'études au conservatoire de manière très classique, hein, de musique classique et jazz aussi. Et puis après, j'ai fait un stage en Italie, à Perugia, où j'avais mal prévu mon budget. Et je me suis retrouvé à faire l'arrière des pizzerias pour trouver des boîtes de conserve et improviser dans la rue, pour m'en sortir. Donc c'était là ma première approche de jouer sur ce genre de matériaux. Et puis, vu l'accueil du public, j'ai décidé de continuer et d'explorer ce créneau-là, c'est-à-dire de jouer non pas avec des batteries qui coûtent 2000 euros, mais simplement ce qu'on pouvait trouver dans la rue. Genre une poubelle, une barrière, un échelle et tout. Voilà, tout peut sonner si on essaye de créer quelque chose avec.
Ça part de la boîte de conserve, vous arrivez au grand bidon d'huile, enfin tout est possible, c'est ça ou...
Tout est possible, c'est ce qui est très amusant dans ce spectacle, c'est que beaucoup de choses sont improvisées, c'est-à-dire qu'on joue par rapport à l'environnement où on va se trouver. Donc on dit tout le temps avec Stéphane qu'une heure avant le spectacle, on fait un petit peu nos courses. C'est-à-dire que dans la fiche technique, on a demandé à l'organisateur qui nous engage une barrière Vauban, une poubelle, un escabeau, une échelle, deux, trois choses de base, si je veux dire. Puis après, on fait nos courses. Si on joue devant une maison, par exemple, on va s'attaquer à la boîte aux lettres, forcément, ou dans d'autres festivals, on nous avait amené carrément des feux de signalisation, des choses métalliques. Enfin, on essaye tout. Il nous est même arrivé de jouer sur un buisson.
Et alors, ça permet quand même de sensibiliser les gens donc au tri des déchets, parce que c'est un petit peu le but aussi, derrière tout ça.
Oui, au tri des déchets, de savoir qu'on ne pas jeter tout n'importe. Par exemple, et c'était vraiment une victoire pour Stéphane et moi. Une fois, on avait joué pour les écoles en France, festival de jazz de Rive de Gier, je crois. Ouais. Et à la sortie de la salle de spectacle, on avait joué devant à peu près, je sais pas, 700 ou 800 enfants. On a vu les enfants qui partaient dans la rue et qui allaient courir, fouiller les poubelles, prendre des objets pour faire de la percussion. Les maîtresses d'école couraient après dans tous les sens. C'était l'anarchie totale, mais pour nous, c'était vraiment une victoire parce que voilà, on peut faire tout avec rien. Ils sont rentrés à la maison et sûrement qu'ils ont vidé l'armoire de maman pour prendre les casseroles et... Ce qui fait l'instrument, c'est quand même la tête, le cœur et comment dire, après les mains, c'est quand même l'être humain, quoi, je pense.
Voilà, donc je vous le dis, c'est à Aulnay-sous-Bois, c'est donc dimanche, demain, 4 juin. Et puis, pour terminer, un petit tour dans le parc naturel régional du Morvan. Là, c'est très, très beau. On peut rentrer par Saulieu, par Avallon. Et dans ce département de la Nièvre, il y a l'Yonne, il y a la Saône-et-Loire également. Carole Zaquin nous attend. Carole Zaquin, bonjour. Quelles sont les caractéristiques de la forêt morvandelle?
Bonjour, Denis Chessou. Alors, la forêt morvandelle, déjà, on peut dire qu'elle est présente un peu partout, puisqu'elle représente plus de 50% du territoire. Alors après, c'est une forêt qui a beaucoup changé ces dernières années. Enfin, ces dernières années, ça remonte à juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec un enraisinement important qui a été fortement incité par la politique à l'époque de l'État. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des forêts nouvellement constituées, résineuses, avec à peu près la moitié des peuplements et le reste donc de la forêt feuillue.
Et heureusement, il y a quand même une prise de conscience à la fois de la population, des professionnels de la forêt aussi.
Oui, voilà, la forêt, donc elle a été enraisinée, c'était d'abord pour produire du bois, donc avec un objectif essentiel de production de bois, mais avec une montée en puissance des attentes environnementales et sociales, on est arrivé ces dernières années avec une vraiment prise de conscience de la multifonctionnalité de la forêt, donc c'est-à-dire la fonction de production, la forêt qui protège, la forêt qui accueille, et donc tous les propriétaires, et puis je vais dire aussi les forestiers, ont pris conscience de ça et ont participé à une démarche de charte forestière, où c'est un programme en fait qui implique tout le monde pour définir des actions ensemble pour la forêt morvandelle.
Et donc on pense peut-être un petit peu plus à l'avenir, c'est peut-être au-delà de 30 ans, puisque c'est à peu près pour un résineux, c'est à peu près ça, entre 25-30 ans.
On compte quand même 45 ans.
45 ans, en pensant à replanter des feuillus, c'est ça?
Replanter au moins, éviter les plantations monospécifiques, introduire plus de mélange pour qu'il y ait un peu plus de biodiversité dans ces forêts nouvellement constituées de résineux.
Et donc ce week-end, ça ne va pas être porte ouverte, mais ça va être forêt ouverte en fait pour le particulier.
C'est exactement. Donc cette semaine, on a décidé un peu d'expliquer la forêt et quels étaient les métiers qui étaient liés. Donc savoir comment on produit du bois, donc avec l'Office national des forêts et puis les entrepreneurs de travaux forestiers qui sont les chevilles ouvrières de l'exploitation, on invite le grand public à venir découvrir ces pratiques actuelles et puis comment elles évoluent.
Carole Zaquin, juste un petit lieu, une forêt, celle que vous préférez dans ce massif du Morvan?
Une forêt avec vraiment une ambiance particulière, ce serait la forêt du Mont Beuvray, avec le musée de Bibracte au pied. Et puis au-dessus, donc une ambiance forestière particulière avec les fouilles, les queules du Morvan, donc qui sont les arbres reliques des haies plessées. Et puis surtout un point de vue au niveau de la calotte sommitale, là quand on arrive en haut, qui est surtout le sud de Morvan, qui est assez particulier.
C'était notre grande série Nos idées nature et nos idées durables sur France Inter. Jean-Baptiste Audibert, Xavier Pestouggi, Denis Chessou vous souhaite un excellent week-end.